l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Malinéo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fait de la formation en trois titres, un cas suspect de Mpox signalé dans la zone de santé de Katana en territoire de Kabare. La personne malade est déjà suivie par le service de santé. Les habitants du lieu sont appelés à la vigilance. La journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques a été célébrée ce mercredi 9 septembre. Des acteurs sociaux et défenseurs des droits humains appellent les parties engagées dans les conflits armés dans l'est de la RDC à protéger les établissements scolaires, les enseignants et les élèves. Et la journée mondiale de la prévention du suicide est à l'honneur ce jeudi 10 septembre 2026. À l'occasion, la communauté entière est invitée à réserver un accompagnement aux personnes qui développent des idées suicidaires. Ce message est de Biringanine Jean Bosco, psychologue clinicien et vice-président de l'Union nationale des psychologues cliniciens Sud Kivu, à la suite d'une série de suicides enregistrés ces derniers temps dans la ville de Bukavu. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedicale.
Un cas suspect de Mpox est signalé dans la zone de santé de Katana en territoire de Kabari. Des messages d'alerte parvenus à Radio Mandeléo font état de la présence dans cette partie de la province d'une personne présentant des signes associés à cette maladie. Cette personne est originaire du groupement de Louis, indique des sources médicales. Des sources proches de la zone de santé de Katana confirment la prise en charge d'une personne présentant des symptômes suspects. Elles indiquent que celle-ci est déjà suivie par le service de santé sans fournir davantage de précisions sur son évolution. Cette alerte intervient alors que l'urgence nationale liée au Mpox a été levée en RDC en avril 2026. Au niveau international, le Mpox n'est également plus classé comme une urgence de santé publique de portée internationale depuis août 2025. Pour la société civile, la population doit néanmoins rester vigilante mais sans céder à la panique. Elle recommande le respect des mesures barrières, notamment éviter les contacts physiques avec toute personne présentant des signes suspects et le recours rapide au service de santé en cas de symptômes, surtout dans la zone concernée. On écoute à ce sujet Didier Tiza, président de l'unité civile dans le groupement de Louis.
Une maman d'une trentaine d'années a été reçue au centre de santé de Louis Centre, dans le groupement de Louis, territoire de Kabare, avec des irritations sur son corps et une forte fièvre. Elle a été transférée à l'hôpital Fomilac pour une prise en charge adéquate et un diagnostic au laboratoire. En attendant le résultat, nous demandons à la communauté d'être vigilante et à respecter les mesures hygiéniques pour éviter les cas de contamination parce que le cas est toujours au laboratoire et nous attendons les résultats des autorités sanitaires.
Nous restons dans la même zone. Les déplacés localisés dans le village Mabingu en groupement d'Irambikatana dans les territoires de Kabare continuent de traverser une situation de plus en plus difficile. Hébergés dans des écoles, ils sont obligés de sortir chaque matin et passer leur journée dans la rue pour laisser la place aux élèves. Ils l'ont fait savoir mercredi 9 septembre au cours d'une descente effectuée sur place par un reporter de Radio Mandeléo. Sur place témoignent-ils des enfants, des nourrissons, des femmes enceintes, des personnes de troisième âge et ceux qui souffrent des différentes maladies passent leur journée exposés au soleil, sur des nattes, des herbes ou à même le sol. Leurs enfants restent privés des études alors que les malades n'ont pas accès aux soins de santé. Par ailleurs, les écoles qu'ils occupent pendant la nuit sont dans un mauvais état, ce qui ne permet pas aux élèves d'étudier dans des bonnes conditions. On écoute le témoignage de certains de ces déplacés qui plaident pour une intervention d'urgence au micro de Radio Mandeléo.
Kupitia shida za mavita zimetukimbiza na jamaa zetu.
Suite à la guerre, nous avons faim, nous avons tout perdu et même nos maisons incendiées. Voilà que nous menons une vie très difficile, car même pour manger, étudier ou dormir, c'est très difficile. Quand les élèves arrivent, nous jetons tout dehors. S'il pleut, c'est la catastrophe. Nous sommes en difficulté.
Depuis que nous sommes ici à Mabingu, nous n'avons reçu aucune assistance. Plusieurs de nos enfants ont déjà perdu la vie à cause des intempéries. Nous n'avons ni sachets, ni habits, et moins encore la nourriture. Nous avons besoin d'assistance car nous vivons dans des conditions difficiles.
Précisons que ces déplacés sont venus de différents villages du territoire de Kalehe où des affrontements entre les combattants Wazalendo et les troupes de la FSAM-23 ont été rudes ces deux dernières semaines. Et plusieurs cas de malnutrition sont signalés dans les rangs des sinistrés de la catastrophe de Bushushu et Yamukubi et qui vivent actuellement à Katashola, dans le village Mongoza, en territoire de Kalehe. Cette situation serait causée par une famine signalée sur place. L'alerte est de là où Irushi Jacques-Crispin, leader communautaire de Katashola, dans un entretien avec Radio Mandeléo mercredi 9 septembre 2026. Plus de détails avec Alain Kabika.
Ces derniers expliquent que les personnes les plus touchées par cette situation sont les femmes enceintes et les enfants qui ne résistent pas aux effets de la famine. Suite au manque de l'eau potable dans leur camp, les femmes et les enfants se rendent à la rivière, puisent de l'eau qui est ensuite utilisée pour des besoins domestiques, sans tenir compte de son état, déplore Lawirushisha. Suite à l'utilisation de cette eau, des cas d'anémie, diarrhée et d'autres maladies sont rapportés sur place, à en croire ces derniers. Lawirushisha Crispin estime qu'il est urgent que les autorités et les partenaires interviennent en faveur de ses compatriotes pour prévenir les pires. Ceci passe par la remise d'une assistance constituée des vivres et non-vivres, ainsi que la construction d'une adduction d'eau afin de protéger la vie de ses compatriotes. On l'écoute dans cet élément.
La situation humanitaire se dégrade davantage pour les déplacés qui vivent à Katashola dans les villages de Mongoza en territoire de Calais. À cause des manques de nourriture, les mamans font un homme jour de 2000 francs pour subvenir aux besoins primaires des ménages où il y a 6 à 10 personnes dans les ménages, d'où on observe la sous-alimentation qui cause beaucoup de cas de malnourris ou boakis chez les mamans, chez les enfants, les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap. Il y a aussi les cas de l'anémie, il y a aussi les cas de malaria et autres maladies comme diarrhée. Il y a aussi les problèmes d'eau potable dans les cas de Katashola. Les mamans et les enfants se rendent à la rivière pour trouver l'eau à utiliser dans la cuisine. Nous demandons aux autorités et les personnes de bonne foi de venir cette population en aide. Nous demandons également aux ONG d'assister ces derniers à vivre et non vivre.
Rappelons que ces sinistrés sont venus des villages Bushushu et Nyamukubi après la catastrophe qui a causé la mort de plus de 500 personnes et un nombre incalculable de disparus dans la nuit du 4 au 5 mai 2023.
Suivez Radio Maindeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maindeleo. Radio Maindeleo, c'est vous.
À présent, la suite de ce radio journal. Et alors que le monde célèbre ce mercredi 9 septembre la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, la question de la sécurité des écoles et des élèves reste particulièrement préoccupante dans les zones touchées par les conflits. Au sud Kivu, les violences continuent d'avoir des conséquences sur plusieurs secteurs de la vie sociale et l'éducation n'est pas épargnée. Détail Hélène Boudjiriri.
Des établissements scolaires ferment leurs portes, des cours sont suspendus et des milliers d'enfants voient leur parcours scolaire perturbé. Pour certains élèves, retrouver le chemin de l'école devient une incertitude suite non seulement à la poursuite des affrontements, mais aussi parce que des écoles restent occupées les unes par les déplacés et les autres par les militaires ou les bandes armées. À cela s'ajoutent des familles contraintes de quitter leur milieu de vie et qui se retrouvent parfois sans logement, sans moyens suffisants et surtout sans possibilité de garantir une scolarité normale à leurs enfants. En cette période de crise, plusieurs acteurs plaident pour la protection des élèves au regard de leur statut particulier, reconnu par les droits internationaux humanitaires, considérant qu'ils ne participent pas aux hostilités. Ces acteurs rappellent que les enfants ne doivent pas être exposés aux affrontements, utilisés à des fins militaires ou contraints d'abandonner leur éducation à cause des violences dont ils ne sont pas responsables. Un de leurs, Jonathan Magoma, directeur des programmes de l'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée, PP pays appelle toutes les parties au conflit à prendre des mesures pour protéger les établissements scolaires, les enseignants et les apprenants.
Les établissements scolaires doivent rester des espaces strictement protégés, même et surtout dans les zones en conflit, particulièrement dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est inacceptable que les écoles soient prises pour cible et que les parties en conflit se servent des établissements scolaires comme instrument de pression ou comme terrain de démonstration de pouvoir. Les écoles, les élèves et les enseignants ne doivent jamais être attaqués, utilisés à des fins militaires ou transformés en milieu de chantage politique. Dans un contexte déjà marqué par des affrontements armés, des déplacements massifs de populations et, disons-le, la quasi-existence des services publics, le PPI invite toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés, à respecter pleinement le caractère civil des infrastructures éducatives et, bien entendu, à garantir la sécurité des enfants et du personnel enseignant, en ville tout comme dans des villages.
Il s'est de préciser que la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques a pour objectif de défendre les droits à l'éducation dans les zones en proie aux conflits armés, exhorter les États à protéger les écoles, les élèves et les enseignants contre les violences. Cette année, cette journée est célébrée sous les thèmes « L'éducation peut-elle survivre aux attaques ? La résilience des communautés humaines ».
D'une journée à une autre, la prévention du suicide commence par une société capable de comprendre les souffrances des uns et des autres et non celles qui jugent. C'est ce qu'affirme le vice-président provincial de l'Union nationale des psychologues cliniciens au Sud Kivu, Biringanine et Jean Bosco, à l'occasion de la journée de la prévention du suicide célébrée le 10 septembre de chaque année. Selon lui, une personne avec des idées suicidaires mérite un accompagnement de toute la communauté car cette question n'est pas individuelle mais collective. Biringanine et Jean Bosco pensent que la question de santé mentale n'est pas encore prise au sérieux dans la communauté, d'où son appel à y mettre plus d'attention, que ce soit dans les écoles, églises et surtout en famille, pour l'identification précoce de la détresse psychologique et prévenir le pire. Il appelle également à créer des espaces où chacun peut s'exprimer librement sur ses ressentis et trouver un accompagnement. Il en parle dans cet élément.
La prévention commence par une société capable de créer des espaces où chacun peut demander de l'aide et s'exprimer sans honte, sans peur d'être jugé. Alors, s'il y a un mot qu'on peut adresser à la population de Bukavu, c'est que déjà, dans notre contexte, il ne faut pas chercher une seule cause. La question des suicides peut avoir plusieurs causes. Il ne peut pas avoir une seule solution. Et donc, la prévention doit être à la fois collective et coordonnée. Et doit tenir compte de plusieurs secteurs de la vie d'ailleurs. Et donc, je pourrais proposer quelques axes stratégiques. Moi, je penserais à renforcer l'identification précoce de la détresse psychologique. Le deuxième axe stratégique, former les professionnels et les acteurs communautaires. Et donc, les acteurs, les professionnels de santé, les acteurs communautaires devraient être déjà alertés par rapport à l'orientation des personnes qui sont à risque.
Les habitants des villages du groupement de Boukoubé dans le territoire de Kabaré devraient privilégier des voies pacifiques de résolution des conflits et non s'entraccuser auprès des autorités et aux porteurs d'armes dans cette partie de la province du Sud Kivu. L'appel est de l'association Famungo Zengombe et Boukoubé, une structure des bienfaiteurs pour le développement de Boukoubé, dans un entretien avec Radio Mendeleo mercredi 9 septembre 2026. Cette structure d'associé civil dit lancer cet appel après avoir constaté que certains habitants du milieu font recours à la justice populaire et aux porteurs d'armes pour résoudre leurs différends, une situation qui peut être à la base de la détérioration du tissu social. Notre source ajoute que les conflits en vogue sont ceux liés aux accusations d'appartenir à tel ou tel autre groupe armé, ceux liés aux limites, mais aussi à la sorcellerie. Pour cette organisation, des séances de médiation et des dialogues auxquels sont associés les sages du village et des leaders religieux sont la voie royale pour consolider la cohésion sociale à Bougou. On écoute à ce sujet le président de l'association Infamungo Yengombe Zebugobe, Murula Mitima Charles.
En cette période de crise sécuritaire dans les territoires de Kabare, marquée par la présence des groupes armés, la multiplication des accusations gratuites et les règlements des comptes au sein de la communauté du groupement de Boukoubé constituent un danger majeur pour la cohésion sociale et la sécurité de chacun. Ces dénonciations calomnieuses, teintées de rumeurs infondées, portant souvent sur des prétendues complicités pour les uns, trahison pour les autres, affaiblissent le tissu social alors que nous avions besoin de la solidarité en cette période particulière. Face à cette triste réalité, l'association Infamungozengombe Yebugobe, organisation membre de la société civile, appelle toute la population du groupement de Bugobe à la retenue, de recourir aux moyens basiques de règlement des conflits, les dialogues en famille, ayant social et sage du village, les Bachamouka, les leaders religieux, pasteurs, chefs de secteur, pour une cohabitation pacifique et la consolidation de la cohésion sociale à Bugobe.
Mouroula Mitima Charles au micro de Radio Maindeleu. Nous changeons de chapitre à l'instar des opérateurs économiques. Les organisations non gouvernementales, ONG et les associations sans but lucratif, ASBL, sont aussi redevables des impôts. C'est ce qu'indique Charles Kanege, le directeur de la Direction Générale des Impôts DGI au Sud Kivu, sous la FCM 23. Il invite les responsables des ONG et ASBL à se mettre en ordre avec le fisc. Dans une communication à la presse, Charles Kanege fait savoir que cette catégorie d'assujettis est irrégulière dans le paiement de l'impôt, évoquant à tort ou à raison des problèmes de financement dus au contexte de la guerre dans l'est du pays. Il renseigne que les ONG et ASBL opérationnels au Sud Kivu ont pour obligation de verser au fisc dans le délai légal les impôts sur les rémunérations de leur personnel et sont tenus également de déclarer à l'administration fiscale les transactions qu'elles ont effectuées avec des opérateurs économiques, insiste le directeur provincial de la DGI. Il demande aux ONG et ASBL de s'acquitter de leurs obligations pour permettre à l'État de couvrir les charges publiques. Charles Kanegi au micro de Radio Mendeleo.
Ces ONG et ces ASBL sont des redevables légaux. Ce ne sont pas des redevables réels. Parce que pour qu'ils ne puissent pas entretenir une certaine confusion, elles doivent savoir que malgré que bénéficiaires de l'exonération, de l'exemption pour d'autres du paiement de l'impôt sur les revenus qu'ils réalisent, elles sont et elles restent redevables légaux par rapport aux impôts qu'ils doivent prélever sur les rémunérations de leur personnel. Ces personnels-là sont plutôt les redevables réels. Ce sont ces travailleurs qui supportent leurs impôts. Mais la loi a prévu comme mode de paiement, comme mode de perception de cette nature d'impôt auprès des ONG, des ASBL. Ces ASBL ont l'obligation légale de retenir l'impôt proportionnellement au revenu de chaque travailleur et le reverser dans le délai. Moi, je pense que les amis, partenaires, ONG, ASBL devraient également contacter l'administration fiscale et se rassurer du respect des échéances et des obligations déclaratives afin d'éviter les pénalités, les amendes qui n'ont même pas prévu dans leur budget.
Et sport en plus bref, les Léopards de la République démocratique du Congo disputeront leur premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN au stade des Martyrs de Kinshasa. La rencontre face à la Guinée équatoriale est programmée donc le 24 septembre à 17h, heure de Kinshasa, il sera 18h à Bukavu. L'information a été confirmée par la Confédération africaine de football, CAF, à travers les désignations des officiels de la rencontre transmise à la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle. Cette affiche marquera le retour de la sélection nationale devant son public après sa participation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
La revue de presse. Radio Maindeleu CAF vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La sensibilisation au débouchage des caniveaux avant la tombée des pluies et la demande des cadres du FCC pour la participation de l'AFSAM 23 au dialogue national sont parmi les sujets qui ont intéressé la presse mardi 9 septembre 2026. La revue de presse avec Hélène Boudjeriri.
Débutons par actualité.cd qui titre RDC, on ne peut pas faire la paix avec ses amis. Marie-Ange Mouchobé plaide pour l'inclusion de la FCM 23 au dialogue convoqué. Les médias en ligne reviennent sur les déclarations de Marie-Ange, cadre du Front commun pour les Congo FCC, qui plaide pour la participation de la FCM 23 au dialogue national. Elle estime qu'il serait difficile de parvenir à la paix sans discuter avec les acteurs impliqués dans les conflits, tout en reconnaissant la question de la justice pour les crimes commis durant la guerre. mesures. La représentante du FCC estime également que le dialogue doit être précédé des mesures de décrispation politique, notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion et l'arrêt de certaines poursuites visant, selon elle, des opposants, journalistes et défenseurs des droits humains. Le FCC réclame par ailleurs une médiation de la CENCO et de l'ECC avec l'appui de l'Union africaine et des Nations unies. La plateforme souhaite également que les assises se tiennent dans un pays tierce, invoquant la présence en exil de plusieurs responsables politiques. Econews s'intéresse de son côté à la présence de plusieurs figures politiques des anciennes législatures dans l'équipe préparatoire du dialogue. Les journalistes y voient une volonté d'élargir les cadres de concertation tout en maintenant des lignes rouges à l'égard des groupes armés. Les tri-hebdomadaires et également une analyse du professeur Jacques Dioli qui distingue trois cadres, Kinshasa pour la cohésion nationale, Doha pour les questions liées aux groupes armés et Washington pour les volets régionales. Sur un autre sujet, Jamboyarade se sensibilise sur les débouchages des caniveaux avant la tombée de la pluie. Ces médias alertent sur les risques d'inondation à Bukavu si rien n'est fait maintenant. Dans plusieurs quartiers de la ville, des déchets s'accumulent dans les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux. Une situation qui inquiète à l'approche des précipitations annoncées et qui pourrait favoriser les débordements des eaux dans les zones déjà exposées. Le constat est notamment visible au niveau des collecteurs Kawa et Luziba. Certains passages sont encombrés par des immondices, réduisant ainsi l'espace disponible pour l'écoulement des eaux des pluies. Selon les acteurs environnementaux contactés par les confrères, le nettoyage des caniveaux ne devrait pas attendre les premières pluies. Un entretien régulier des ouvrages, des drainages, permettrait de faciliter l'évacuation des eaux et de limiter les risques de débordement. Bouclons cette revue de presse avec les souverains libres qui s'intéressent aux enfants de la rue, visibles à plusieurs endroits de la ville de Bukavu. Certains rencontrés par les souverains disent avoir des difficultés de retourner à l'école car leurs pères sont des militaires qui ont fui certains avec leurs femmes à l'avènement de la FCM-23. Une situation qui touche ces enfants les poussant ainsi à vivre dans la rue. Les défenseurs des droits des enfants plaident pour la protection de cette catégorie d'enfants, surtout pendant cette période, concluent ces médias.
Par ici pour enfin ce Radio Journal, Jean-Claude Ndaga a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.